Des questions? Je commence alors, pour délier les langues. Juste deux points. Il y a un point, un moment que tu as affirmé qui, à mon avis, est essentiel si on veut comprendre l'architectonique de la philosophie kantienne, c'est qu'en effet, l'architectonique de cette philosophie ne peut pas être déterminée pour des raisons abstraitement systématiques. Oui. Mais cette architectonique s'organise toujours, et c'est pour ça aussi qu'elle est mouvante dans l'œuvre, à partir de la considération de l'intérêt de la raison, qui, comme dit Kant, est en dernière instance toujours un intérêt pratique. Et on voit comment, au fond, bouge le système selon que cette pratique prise à la manière de la critique de la raison pure, à la manière de la critique de la faculté de la raison pratique, l'architectonique bouge. Ce qui s'impose quand on a un concept cosmique de la philosophie comme dit Kant, c'est-à-dire un effet polarisé par les fins de la raison humaine. Et donc, on ne peut pas, sur le modèle des ontologies à la mode wolfienne ou autre, édifier l'édifice du savoir pour des simples raisons comme ça, systématiques, coupées de tout intérêt pratique. Ça, je pense que c'est en effet important de souligner. Alors maintenant, dans l'organisation que tu présentes, qui est très séduisante à mon avis, de pousser en effet l'idée de pousser le parallèle critique de la raison pure, premier principe de métaphysique de la nature, premier principe métaphysique de la science de la nature, et théorie du passage à la physique empirique dans l'opus postumum d'une part, et d'autre part dans le champ pratique. Donc, si on veut le point de vue de la critique de la raison pratique, le point de vue de la métaphysique des mœurs, et au fond, le point de vue de la philosophie de l'histoire et de la religion. D'accord. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a quand même un décalage qui tient probablement à la spécificité du point de vue pratique? C'est que ce que développe Kant dans l'opus postumum, c'est un passage théorique de la métaphysique, de la nature à la physique appliquée. Il cherche, il n'y arrive pas vraiment, mais bon, enfin, peu importe. Il cherche un passage théorique. Alors que la philosophie de l'histoire, d'une part, ou la théorie philosophique de la religion, d'autre part, c'est pas un passage théorique, c'est une théorie du passage effectif, du devenir effectif des exigences qui sont celles de la raison pratique. C'est-à-dire qu'au fond, on cherche comment ce qui est thématisé comme loi morale, etc., se rend effectif. Et c'est pas du tout pareil, parce que c'est une théorie de la pratique. Le passage, c'est l'agir qui le donne. Alors que dans la pratique, un passage conceptuel, on cherche à édifier une transition du point de vue de la métaphysique de la nature au point de vue de la physique appliquée. Dans la philosophie d'histoire, on réfléchit sur comment les exigences morales se font réelles. Et donc, la spécificité du point de vue pratique fait qu'on ne peut pas opérer un pur décalque, un pur parallèle entre les deux questions.
Oui, mais non, je suis d'accord. Mais je crois que la notion de passage de Kant, c'est plus ample. Elle n'est pas seulement le théorique. Dans le fondement de la métaphysique de la mer, les passages de cette section, ce sont des passages pratiques. Non? La trois sessions de fondement. Alors Kant, en même temps, il pense dans le passage du sens pratique, quand il lit, c'est le passage de la raison commune, etc. Le passage à la critique. Il y a la notion de passage structurante de fondement de la métaphysique de la mer. Alors, bon, peut-être on peut penser une théorie de passage, non? Et le modèle de passage n'est pas nécessairement la théorique. Il y a différence, je suis d'accord. Mais j'ai cité deux ou trois passages où Kant permet il même fait l'analogie de genre de passage. Non?
Oui.
Je comprends, j'imagine que je comprends ce que tu as dit. C'est différent.
Hein. C'était pour
c'est différent.
Dire qu'en fait, si je veux rentrer dans ton vocabulaire, la spécificité du train pratique, dans oui. pratique, métaphysique des mœurs, philosophie d'histoire et religion, c'est que c'est bien un passage théorique, puisqu'on va de plus en plus vers l'empirie, hein, mais ce passage théorique, il advient sous la forme d'une réflexion
oui.
sur le devenir effectif de la loi, c'est-à-dire
oui.
un passage théorique
oui.
à un passage pratique, si on veut.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'il s'agit, parce que évidemment, ça serait absurde de se dire qu'il faut rendre effectives les lois métaphysiques
oui.
de nature, puisqu'elles le sont, bien sûr. Alors que là, il s'agit de réfléchir sur quelque chose qui est lui-même dynamique.
Oui, je pense que c'est une analogie mm-hmm. qui nous permet de d'un côté, c'est une analogie qui nous permet de faire la comparaison. Bon, disons, l'unité de la raison exige ça, hein, de penser. C'est la même raison qu'il y a de fonctions existantes. Hein. Bon, mais oui, je suis d'accord que c'est différent, oui. Mais il y a cette analogie.
Mm, hein, tout à fait.
Et à cause de ça, que c'est important, je crois que Kant emploie beaucoup la notion d'application. Hein? Nous avons les principes et une série d'éléments pour l'application du principe moral. Hein?
Oui,
on doit travailler application en effet, avec passage, hein? Les deux choses.
Hein? Oui, c'est dans ton exposé aussi, donc, mais tu as insisté sur ce que ça visait à remettre en cause l'interprétation du formalisme kantien comme
oui.
quelque chose qui serait vide et coupé. Et si on repense au texte de Benjamin Constant qui dit qu'il faut des principes intermédiaires, et ça dirigé contre le rationalisme.
Oui.
Au fond, Kant passe son temps à chercher des principes intermédiaires. Non, il ne fait que ça.
Oui.
Mais on a un autre sens.
Oui, ce sens-là.
Oui parce oui. qu'ils ne sont pas censés relativiser les voilà. principes fondamentaux, mais les traduire comme tels.
Oui. Oui.
Patrick.
Oui, toujours dans le même parallélisme.
Oui.
Si on veut, avec Kant, un peu, c'est ce que lui reprochait Schopenhauer d'avoir un penchant pour la symétrie.
Oui, mais c'est faux, là.
Oui, non, non, mais je.
C'est
une plaisanterie. Est-ce que le fondement de la métaphysique des mœurs n'apparaît pas comme quelque chose de dépourvu, de pendant sur le côté de la science?
Oui, oui.
C'est-à-dire, on a la critique de la raison pratique qui est le deuxième
oui,
niveau déjà,
oui,
et qui
oui.
a son analogone
oui.
dans la critique de la raison pure.
Oui.
Et donc, le fondement de la métaphysique des mœurs serait peut-être la source commune
oui.
pour les deux oui. branches de
bon.
L'arbre.
Et après, nous avons aussi deux parties de la métaphysique. Dans la théorie, nous avons seulement une. Ici, droit et vertu.
Oui.
Dans la nature, non. Et non, c'est pas la symétrie, c'est pas systématique. La troisième critique n'est pas prévue dans la première. Non. J'ai insisté dans cette phrase de Lehmann, de Lehmann systématique et poétique, parce que c'est pas un système qui est prévu dès le début. Mais non, c'est une démarche. Il y a des surprises tout le temps. Non? C'est faux la lecture de Schopenhauer.